Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un puits, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Tout avait commencé une décennie auparavant, en 1967, 68, 69, quand nous étions à peine adolescents. Nous avions vu nos frères manifester contre la guerre au Vietnam et en Palestine, les ouvriers descendre dans la rue pour défendre les droits des travailleurs, les étudiants en sociologie de Trent sortir de l'université et investir le social, et les fous libérés par le docteur Basaglia et le courant de psychiatrie démocratique se promener en ville. Nous lisions Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Wilhelm Reich, Nietzsche, Ivan Illich, Edon Lorenzo, Milani, et relisions Marx et Engels. Nous écoutions Bob Dylan, Joan Baez, les Beatles, les Rolling Stones ou les Jethro Bulls. Nous chantions les chansons de Fabrizio De André et Francesco Guccini. Et nous avions une envie irrépressible de changer le monde, c'est-à-dire la société dans laquelle nous vivions. Nous voulions faire la révolution, mais nous étions avant tout des rebelles. C'était presque une sensation physique, instinctive. Tout n'était pas très clair. C'était parfois même assez confus. Un mélange d'anti-autoritarisme, d'anti-militarisme, contre la discipline à l'usine comme à l'école, pour la justice et l'égalité, pour changer les rapports sociaux, comme les relations interpersonnelles, le mouvement culturel des fils des fleurs, des jeunes et des étudiants en révolte. Dans tout l'Occident, contre toute forme d'autoritarisme et de domination sociale, raciale, sexuelle, faisant sa greffe en Italie, sur une pensée critique de la gauche communiste qui, depuis Gramsci, s'était affranchi de l'obligation de pensée unique, stalinienne, et avait ouvert des espaces de débat à sa gauche. Parmi d'autres événements, en 1968, la sortie fracassante du PCI de Rosanna de Rosanda et des autres fondateurs du groupe et du quotidien Il Manifesto signifiait qu'un autre communisme était possible. Après les horreurs du stalinisme et du maoïsme, nous étions beaucoup à y croire, des millions d'Italiens vécurent durant une longue décennie en pensant qu'il était possible de construire une nouvelle société communiste, là, en Italie. Vu d'aujourd'hui, après les années Craxi, D'Alema, Berlusconi, cela ressemble à une histoire du siècle dernier, un passé lointain, révolu, quand il y avait encore une seule chaîne de télévision et que les images étaient en noir et blanc, à l'époque de Toto, de Pasolini et d'Alberto Sordi. Dans la province de Vicente, aux origines de tant de destins communs, il y a une date, le 19 avril 1968. Ce jour-là, à Val d'Agano, les ouvriers de l'usine textile Marzotta avaient déboulonné et tiré au sol la statue monumentale en bronze du comte Gaetano Marzonto, père fondateur de l'entreprise familiale qui trônait sur la place de la ville.
Lottavano così come si gioca, i cuccioli del maggio era normale, loro avevano il tempo anche per la galera, ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Même si en notre mois de mai affaiblit votre courage, si la peur de regarder vous a fait baisser les yeux, si le feu a épargné votre révolution, même si vous vous croyez absous, vous êtes impliqué tout de même. Et si vous vous êtes dit qu'il ne se passe rien, que les usines réouvriront, qu'ils arrêteront quelques étudiants, si vous êtes convaincu que c'est un jeu auquel nous aurions joué un peu, vous essayez pourtant d'être absous, mais vous êtes impliqué tout de même. Même si vous avez fermé vos portes devant nous, durant la nuit où les panthères étaient à nos trousses, même si vous nous avez abandonnés à votre choix, nous laissant être massacrés sur les trottoirs, même si maintenant vous êtes frégates, vous, cette nuit-là, vous y étiez. Et si dans vos quartiers, tout est resté comme hier, sans barricades, sans blessés, sans grenades, si vous avez pris pour bon compte la vérité de la télévision, même si vous êtes alors absous, vous êtes impliqués tout de même. Et si vous croyez maintenant que tout est rentré dans l'ordre, parce que vous avez voté encore la sécurité, la discipline, convaincu d'avoir éloigné la peur du changement, nous viendrons encore frapper à vos portes et nous crierons encore plus fort. Combien de temps vous vous croirez absous ? Vous êtes toujours impliqué. Combien de temps vous vous croirez absous ? Vous êtes toujours impliqué.
Imputato, ascolta, noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere,
mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia. Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me, ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?
J'écris ce livre en élève de plomb parce que j'avais cette histoire sur le cœur.
Mercredi dernier, aux Tanneries, Alessandro Stella est venu présenter son livre « Année de rêve et de plomb ».
Je suis content d'être parmi vous ici à Dijon, à l'espace autogéré des Tanneries, entre autres parce que j'habitais 14 ans en Bourgogne, dans un bled de Noyers-sur-Serein, dans Lyon, côté des Tonnerres, Auxerre. Et je savais pas qu'il y avait en Bourgogne des autonomes organisés, autogérés. Donc ça m'a fait bien plaisir. Je suis content aussi d'être là parce que vous avez repris des termes, notamment des spectacles que vous avez fait sur l'intervento. Justement, c'était le terme qu'on employait à l'époque. Fare intervento dans les usines, dans les écoles, dans les quartiers. C'était intervenir dans les dynamiques sociales et essayer d'y apporter un vent nouveau de différentes manières de forger le monde. Voilà, j'écris ce livre en élève de plomb. Presque 40 ans après, les faits. Parce que j'avais cette histoire sur le cœur, parce que c'est une histoire qui m'a beaucoup plu d'avoir vécu. Je l'avais sur le cœur parce que dans cette histoire, j'ai perdu 5 copains, camarades. Et je l'avais aussi sur l'estomac, cette histoire. Sur l'estomac parce que depuis lors, le gouvernement, l'État italien a présenté, pas seulement, enfin, journalistes, politologues, sociologues, etc., ont présenté ces années comme des années de plomb. Et pour moi, c'était d'abord des années de rêve. Bien sûr, ça s'est terminé dans le plomb. Et on a utilisé nous-mêmes le plomb. Mais c'était d'abord des années de rêve. Moi, comme des milliers, des centaines de milliers d'autres, on a commencé dans les années 68 ou post-68, dans une dynamique fondamentalement, d'ailleurs, pacifiste. Moi, les premières manifs que j'ai fait, c'était contre la guerre du Vietnam, contre l'annexion de la Cisjordanie par les Israéliens, contre les services militaires obligatoires en faveur des insoumis, objecteurs de conscience, qu'on appelait à l'époque, contre les prisons en général. Et voilà, et dès là, des mouvements pacifistes, des mouvements de lutte sociale dans les usines d'abord, dans les écoles d'université, dans les quartiers, etc. Petit à petit, au cours des années 70, de ces grands mouvements issus de 68, il y a eu une partie quand même relativement importante, plusieurs milliers de personnes, qui ont fait le choix des armes. Ce livre, mon livre, qui raconte 10 ans de cette histoire, commence par la mort de 3 camarades morts dans l'explosion d'une bombe qu'ils ont en train de fabriquer. Et donc, je m'interroge sur comment nous en sommes arrivés là. Et l'histoire est assez longue et complexe, et c'est injuste et terrible que cette histoire soit classifiée comme année de plomb, parce que c'était un engrenage. On n'était pas tellement méchants plus que d'autres, on n'avait pas envie de faire du mal à autrui. On réagissait aux injustices qu'on subissait, aux injustices qu'on voyait. Et petit à petit, on est arrivé à utiliser la force, qu'on disait à l'époque. Mais c'était un chemin assez long. Et comment et pourquoi, j'essaie de l'expliquer. Moi, je viens d'une province d'Italie, la province de Vicenza, dans le nord-est, à 80 km de Venise, dans les terres, qui était une région, c'était la principale région du textile en Italie. Et c'était la troisième région industrielle d'Italie après Milan et Gênes. Et il y avait une longue tradition de lutte ouvrière, en effet. C'est une province qui, après 1945, était gouvernée sans interruption, jusqu'à présent, en fait, par la démocratie chrétienne. Et donc, elle était appelée la province la Baleine Blanche. Mais c'était faire fi de la part des politologues qui employaient ces termes, du fait qu'il y avait une deuxième âme dans la province, c'était une âme rouge, qui venait déjà des milliers du XIXe siècle. Déjà à la fin du XIXe siècle, il y avait des organisations anarchistes, socialistes, d'ouvriers dans la province, et des grèves, et des luttes. Il y avait des âmes dans cette province, comme un peu des âmes qu'il y avait et qui aujourd'hui toujours en Espagne, entre les Noirs et les Rouges. Bien. Donc, je suis dans cette province et j'étais immergé tout de suite dans les idées, dans ce qu'on disait et dans les luttes, vraiment dites, des ouvriers, parce que c'est dans la province de Vicenza, Valdagna précisément, où il y avait la principale usine textile, Marzotto, qui en 68, en février 68, les ouvriers de cette industrie, qui étaient des ouvriers tenus par les patrons, tenus sous tous les termes, c'est-à-dire que les patrons étaient non seulement patrons des usines, mais étaient propriétaires des immeubles où logeaient les ouvriers, qui avaient fait construire le stade de foot et la piscine pour les ouvriers, vous voyez, bon, bien paternaliste. Bon. Et en 68, les ouvriers sont révoltés. Enfin, ils s'étaient déjà mis en grève un an auparavant, et au bout d'un an, les grèves ont débouché sur une grève générale. Et pendant une semaine, des affrontements avec les forces de l'ordre à Valdagno et avec l'action symbole de détrôner la statue qui était sur la place de la petite ville, du fondateur de l'industrie Gaetano Marzotto, hein, et elle a été déboulonnée et tirée au sol avec des cordes par les ouvriers. Image très symbolique et importante, qui m'avait marqué, a marqué beaucoup de gens dans ma province et dans l'Italie entière. Et moi, ensuite, je suis né dans les luttes étudiantes. Et déjà à 14 ans, j'étais déjà immergé dedans. Et depuis, j'ai continué. D'abord, en me mettant en attendant le groupe de Porto-Operaio, en 71 déjà, tout jeune. Et ensuite, en suivant l'évolution, c'est-à-dire qu'ensuite, en 73, Porto-Operaio s'est dissous. C'est dissous, une partie des membres Porto-Operaio sont entrés dans la Brigade Rouge et l'autre partie a fondé des groupes d'autonomie ouvrière. Parce que déjà à l'époque, il y avait tout un courant d'idées culturelles, des raisons de pousser aux armes. En 73, la dissolution du potere operaio coïncide en fait avec les golpes de Pinochet au Chili et donc la réalisation de la part des gens des révolutionnaires que la voie démocratique au socialisme était voué à l'échec puisque tu pouvais prendre les pouvoirs avec les urnes et ensuite un coup militaire renverser les cartes. Et c'était une des raisons, en fait, avec une tradition longue qu'il y avait en Italie d'insurrection communiste. Puisqu'il y avait, au cours du XXe siècle, il y a eu trois phases de tentatives insurrectionnelles en Italie. La première était après la Première Guerre mondiale, en 1919-1920, ce qu'on appelait les biennes rouges, les années rouges, où il y avait eu 300 les principaux usines d'Italie occupées, les grandes propriétés italiennes aussi, un mouvement insurrectionnel qui a duré des ans et qui a été stoppé, comme on sait, par les fascismes, puisque les fascismes italiens, Mussolini, sont nés des escadrons formés financés par les propriétaires et les industriels pour combattre les grévistes. Il y a eu une deuxième phase insurrectionnelle entre 1943 et 1948, puisqu'en 1943, Mussolini chute, c'est les militaires italiens qui prennent le pouvoir et qui se mettent neutres par rapport à la guerre. L'Italie est occupée par les nazis. Et entre 1943 et 1945, se forme ce qu'on appelle la résistance, les partisans italiens, qui étaient, bien sûr, comme en France, il y avait des centristes, démocrates, catholiques, etc. Mais les gros défauts, c'était des militants communistes. Et entre 1943 et 1945, il y a une véritable guerre civile en Italie qui s'est faite. Et la guerre civile est arrêtée en 1948 après l'attentat à Togliatti, par Togliatti lui-même et par les Comintern qui bloquent toute tentative insurrectionnelle en Italie, comme vous savez, par le pacte de Yalta où l'Occident est réservé à l'influence américaine et l'Est de l'Europe. Aux soviétiques. Bon. Mais cette mémoire a perduré et s'est transmise. Et donc, une génération après, en 68, ça reprend encore une fois les courants révolutionnaires, insurrectionnaires en Italie. C'est ça dont il s'agit. Qui avait donc une tradition communiste en sens général, aussi bien à l'intérieur du Parti communiste italien que parmi tous les gens qui n'étaient pas au Parti communiste italien, qui étaient anarchistes, qui étaient dans des groupes externes au Parti communiste. Et ça prend encore à partir de 68 dans différents groupes qu'on appelait extra-parlementaires, Porto-Operaio, Lotta Continua, Movimento Studentesco, Milan, Avanguardia, etc. Bien. Ces mouvements qui, à l'origine, étaient des mouvements politique qui faisait des luttes de masse, etc., se voit confronté, en fait, de plus en plus, dans la première moitié des années 70, aux forces répressives de l'État et aux fascistes. Et de là vient l'effet de la création des services d'ordre des groupes extraparlementaires, vient aussi le noyau ensuite des groupes armés. Vous savez que Primarini est né du service d'ordre de l'ordre continu et que, en gros, les groupes de l'autre mouvement sont nés du service d'ordre du poteur opérail, en gros. Et la moitié de Brigade Rouge aussi. Donc c'est une histoire qui évolue. C'est pourquoi j'ai trouvé pas juste la vision de ce film qui est par ailleurs bon, qui s'appelle La meilleure jeunesse. Non, meilleures années, oui, en français, oui. La meilleure juventud en italien. Oui. C'est injuste parce qu'il présente des braves types, des jeunes altruistes, solidaires avec les alluvionnés de Florence en 67. Et puis dans la deuxième partie du film, il y a la présentation d'une fille qui glisse dans les Brigades Rouges, et alors elle est présentée avec déjà physiquement avec des yeux hors des orbites, un peu folle, et on comprend pas. Et donc ce film là, hein, tout le cas de Jordan, le réalisateur, c'est quelqu'un qui était ou est encore aujourd'hui au Parti communiste italien, enfin ce qui en reste, ce qui est les héritiers. Et donc il prend cette ligne qui est la ligne officielle de l'histoire en Italie, où oui, on va bien voir des jeunes altruistes qui ont fait des luttes qu'on peut considérer recevables dans la première moitié des années 70, et ensuite, après la deuxième moitié des années 70, la lutte armée, on ne comprend pas comment c'est né. Et c'était des fous, des provocateurs, des extrémistes, comme on les appelait, voire des terroristes. Bon, tout ça c'est injuste, puisque ce sont les mêmes gens, à des époques différentes de leur vie et de leur parcours personnel et collectif. C'est un continuum. Alors, si vous voulez, évidemment, le mouvement de 68 en Italie, c'était des millions de personnes. Les mouvements de l'autonomie ouvrière en Italie en 77, on peut l'évaluer à quelques centaines de milliers de personnes. Hein? Quand vous faites une manif à Rome de 100 000 personnes au mois de mars 77, c'est 100 000 personnes. Mais à l'époque, on arrivait à faire des manifs à Rome, à Milan, à Turin, à Padoue, partout, et il y avait quelques centaines de milliers de personnes dans la rue le même jour. Bon, donc un mouvement large, d'abord, puis réduit ensuite dans les choix de radicalisation, disons, et à l'intérieur de ce mouvement de radicalisation large, quelques milliers de personnes qui ont effectivement pris les armes. Et donc, les groupes armés en Italie, objectivement, puisque quand même il y a eu des études d'étrangers, pas forcément des Français en particulier, des Allemands, sur l'Italie de 70, parce qu'en Italie c'est presque interdit et censuré de s'intéresser de façon ouverte. Bon, on montrait qu'il y avait plusieurs milliers de personnes qui ont pris les armes effectivement. Les groupes de Renato Curcio à l'Assemblée des documents et des études, à partir des années 90, sur les groupes armés de les années 70. Et donc, il résulte qu'il y a eu environ 5 000 condamnés à des années de prison et entre 15 et 20 000 personnes qui sont passées par les tribunaux, et d'abord en prison, quelque temps. Donc, un mouvement large, beaucoup plus large que... c'est qu'a connu la France avec son direct, ou c'est qu'a connu l'Allemagne avec la RAF, ou c'est qu'a connu l'Espagne avec les Grapo et autres groupes armés d'extrême gauche. Et donc c'était un mouvement d'amplitude qui est classifié des terroristes comme encore aujourd'hui en Italie ils le font, parfaitement juste. Bien entendu, il y a eu des meurtres, il y a eu environ 300 morts faits par les Semagos au cours de 10-12 ans. Mais il ne faut pas oublier que quand nous avons pris les armes, il y avait derrière nous quelques 200 personnes tuées au cours des manifs en Italie à partir de 1948. Et tuées à coups de bâton, à coups de balles dans les manifs, c'était pas... Et c'est à ça que nous avons réagi. On n'avait pas vraiment, même les brigades rouges n'avaient pas idée de vouloir prendre le pouvoir par les armes. On n'était pas si cons, si naïfs. Enfin, parce que le truc, c'est que tu commences avec des Molotov, des cailloux d'abord. Tu suis avec des cocktails Molotov. Ensuite, tu as des pistolets. Et ensuite, tu as des mitraillettes et des Kalachnikov. Et ensuite, tu te trouves devant les chars. Parce que c'est ça qui s'est passé. Parce que quand en 1977, on avait des armes de poing et quelques mitraillettes qu'on avait réussi à récupérer. Et tu te trouves devant des chars de l'armée. Qu'est-ce que tu fais? T'es mort, quoi. T'es obligé d'aller ailleurs. Tu ne veux pas mener un combat contre beaucoup plus fort. Mais ce n'était pas ça notre objectif. C'était, les brigades rouges ont séquestré et ensuite tué malheureusement Aldo Moro. Avec une théorie qu'ils avaient inventée de porter l'attaque au cœur de l'État. Bon, c'était surtout médiatique la chose parce que parce qu'en fait, les brigades rouges, comme tous les autres groupes armés, on faisait de la violence symbolique, c'est ça l'affaire, symbolique. On faisait de la propagande armée pour soutenir les luttes sociales. C'était l'intervention armée, c'était pour soutenir les luttes sociales. C'est pour ça que les brigades rouges, jusqu'en 1976, ils n'avaient tué personne, sauf par accident. Mais ils avaient séquestré des dirigeants d'entreprise mis au pilori avec une pancarte au cou qui était bien vue par les ouvriers, qui était bien vue. Il y avait une solidarité, une sympathie évidente et qui a continué, qui a perduré parce qu'autrement on n'aurait pas continué aussi. On était soutenus parce que les gens nous voyaient qu'on servait à quelque chose parce que je raconte dans mon bouquin en 78 dans mon coin là il y avait on était rentrés de vacances fin juillet avec les camarades et il y avait des ouvrières d'une usine qui sont venues nous voir en disant que les patrons voulaient licencier, transférer l'usine à 300 km plus loin. Enfin bon. Et donc, le lendemain, on a monté occupation d'usine, grève, grève et sabotage, et menace au patron. Et menace au patron, ça marchait, quoi. Ça marchait parce qu'il a reculé. Il a reculé parce qu'il savait que s'il allait plus loin, il risquait, quoi. Parce que ça faisait déjà un moment qu'on intervenait, qu'on faisait un intervento sur les luttes ouvrières avec des moyens, oui, parfois armés, c'est-à-dire brûler des voitures des chefs d'atelier, des patrons, attaquer la maison, voilà. Et ça servait. Ça se fait parce que l'intimidation, quand même, a de l'effet sur des gens qui se pensent invulnérables. Mais c'était ça, on ne passait pas de prendre les armes. Les groupes armés sont formés d'abord comme autodéfense, ensuite comme offense vis-à-vis de se considérer et nos ennemis, et c'était fondamentalement les patrons, l'État et les forces de l'ordre, pour résumer. Dans cette montée qui a eu son point culminant en 77, avec le mouvement de 77, qui était un mouvement qui était la réussite de ce qu'on avait espéré, c'est-à-dire qu'on espérait, comme disait Mao, que mille flairs surgissent nouveau. Et effectivement, en 77, il y a eu en Italie, vraiment unique en Europe, un mouvement social très très important qui voyait mélanger des ouvriers, surtout des jeunes ouvriers. Parce que moi, j'ai commencé en allant causer avec des vieux ouvriers communistes d'usine, assez marxistes-léninistes. Mais en 77, ce n'était pas ces ouvriers-là qui étaient avec nous, c'était des jeunes ouvriers. Des jeunes ouvriers qui étaient sortis, d'abord qui avaient fait des écoles jusqu'au bac, au bac technique, et des jeunes ouvriers qui avaient une culture 68 tard, underground, contestataire, alternative, et c'était autre chose. Et qui se sont joints à des étudiants, à des précaires, à des féministes, à des homosexuels, à des pros de quartier, à un tas de mouvements que les politologues n'arrivaient pas à définir. Et qu'on a appelé un étrange mouvement de trans-étudiants. Ils ne savaient pas comment définir ce magma. Incompréhensible, mais compréhensible à nous. Et moi, je pense en effet que déjà en 77 en Italie, il y avait les germes de ceux qui sont aujourd'hui les nouveaux mouvements sociaux qui sont de cette nature-là, qui agrègent différentes sensibilités et positions sociologiques, disons. Moi, j'ai vécu le printemps parisien dernier, Nuit debout, et j'ai retrouvé l'humus que j'avais respiré en Italie dans les années 70. C'est-à-dire ce mélange de toutes sortes de désirs et de revendications, de refus qui viennent de toutes parts, y compris des SDF debout, drogués debout. J'ai trouvé ça très, 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 très fort et très, très, très bon. Je crois que c'était ça en 77 en Italie, ce qu'ils n'ont pas compris. Suite à ça, l'État, pour faire bref, a réagi de façon brutale. De façon brutale, puisqu'ils ont mis en place, à partir après Aldo Moro, en fait, ils ont mis en place tout un système répressif hors normes, extrajudiciaires, des prisons spéciales, des tribunaux spéciaux, des magistratures spéciales pour le terrorisme, etc., etc. Tout un système qui visait à nous combattre, à nous détruire, à nous annihiler. Et en particulier, ils ont mis en place cette législation prime dans l'Italie chrétienne, des repentis, qui n'étaient pas des repentis, c'était des salopards, des mouchards qui ont balancé leurs copains et camarades pour s'en sortir. Mais ça fait beaucoup de mal, puisque ça introduit les vers dans l'organisme, parce que jusqu'à là, on n'envisageait même pas que quelqu'un pouvait se retourner et balancer les camarades. Et là, du moment où il y a eu des balances, ça a introduit la suspicion à l'intérieur des mouvements où, au lieu qu'être en confiance avec les autres autour, on commençait à se méfier. On ne sait pas si après l'autre ne va pas nous balancer. Et ça, c'était grave. Ça, c'était grave. Et là-dessus, la réaction de certains, l'intérieur de Brigade Rouge, la Primarine en particulier, qui ont, qui ont tué aussi, tué des balances, ça n'a pas non plus été quelque chose de bien pour... au contraire, ça a empiré la chute. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux années de plomb, et les années de plomb, ce ne sont pas, pour moi, les années 70, les années 70 pour moi restent des années de rêve, avec du plomb, mais les années de plomb, c'est les années après, les années 80, les années où l'État italien impose le silence et la censure à tous ceux qui pouvaient critiquer d'une façon ou d'une autre l'état des choses. Et cette censure, ce silence imposé à la critique subversive, dure jusqu'à aujourd'hui. C'est assez terrible, l'Italie d'aujourd'hui, à regarder. Pour quelqu'un qui a vécu dans les 70, qui même à l'étranger était vu comme un laboratoire de nouvelles idées de critique sociale, voir comment aujourd'hui l'Italie est un pays où l'hyperbénisme est triomphant, le conformisme est indéfectible, et où encore aujourd'hui, c'est incroyable, encore aujourd'hui, nous sommes considérés des terroristes et qu'on doit seulement se repentir, faire amende honorable, demander pardon, sans mettre en avant tout ce qu'il y avait de bien dans cette expérience et qui a perduré, qui continue aujourd'hui. Parce qu'en Italie, la lutte armée s'est arrêtée, mais les mouvements sociaux alternatifs ont continué. On continuait malgré toutes les difficultés, et aujourd'hui il y a des centres sociaux qu'on avait inventés dans les matières des années 70. Aujourd'hui il y a des centres sociaux partout en Italie, partout, presque dans des bleds, c'est pas des grandes villes évidemment, et qui font du travail d'intervento dans la société, usines, surtout tout ce qui est précariat, la lutte sociale, la lutte antimilitariste, etc., et des activités culturelles et sportives aussi, pourquoi pas. Donc il y a tout un héritage qui est important en Italie de l'autonomie ouvrière et de ces années-là. Mais il est nié par l'État, et il ne faut surtout pas en parler de façon positive. Et au point que les camarades eux-mêmes, beaucoup ont intériorisé une certaine censure de ces années-là, puisqu'il est interdit d'en parler de façon positive. C'est que incroyable, parce que encore aujourd'hui en Italie, moi j'ai été arrêté en 82 en arrivant en France. Je me suis fait arrêter presque après, disons. Je savais bien à quoi j'allais à l'encontre. J'ai joué la carte que Mitterrand avait dit que si on lâchait les armes, ils nous accueillaient, en gros, sans plus. Et donc je suis venu, j'étais arrêté, libéré au bout d'une semaine, par ordre de la chancellerie de Badinter. Et depuis, à part quelques amers, pas sans plus. Et comme moi, des centaines d'autres Italiens ensuite ont pu vivre en France sans en liberté. Donc, Mitterrand, l'État français, a donné pratiquement une amnistie à quelques centaines d'Italiens réfugiés à la place de l'Italie, qui n'avait pas eu le courage de le faire. Bon, l'Italie, depuis 30 ans, demande, pas s'ils ont arrêté maintenant, demande l'extradition des réfugiés italiens en France. Bon, ils ont obtenu deux extraditions depuis. La France a toujours refusé qu'il y ait un gouvernement de gauche ou de droite. Or, en Italie, jamais lu, ni un livre évidemment, ni un article de journal, les journalistes qui disent, mais comment c'est possible que l'Italie a condamné, été en prison encore aujourd'hui, c'est pas des 100 personnes, je pense, pour faire le terrorisme en 70, et la France a pratiquement donné l'amnistie à des centaines de personnes Mais jamais, jamais en Italie, jamais un journaliste osait dire ça. C'est qui ? Juste une évidence. Juste une évidence, juste un constat. Hein ? Jamais personne n'a soulevé cette question. Comment c'est possible qu'un État aussi démocratique que l'Italie, quand même, si on parle comme ça, laisse des gens libres et l'autre veut les mettre en prison ? Aucun journaliste, aucun journal a osé, jusqu'à présent, soulever cette question. Hein ? Encore aujourd'hui, les protagonistes des indépendantistes sont obligés de se taire. Encore aujourd'hui, Renato Curcio, il a risqué de se faire interdire récemment une présentation de son dernier travail sur les migrants à Milan. Vous voyez, c'est incroyable. Il n'allait pas parler des indépendantistes. Vous voyez ? Mais quelqu'un qui s'exprime étant évidemment une figure de centraliste, non, il doit être censuré. Et c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Voilà, donc c'est une plaie ouverte en Italie qui n'est toujours pas fermée ni encore moins cicatrisée, puisqu'ils n'ont pas volé, puisque depuis, ils agitent toujours le spectre du terrorisme de façon instrumentale, puisque n'importe quelle, depuis les années 80, en fait, n'importe quelle lutte radicale en Italie est tout de suite mise sur le compte des résurgences du terrorisme. Harry De Luca, c'est le cas le plus connu et flagrant, qui avait justifié un petit sabotage sur les travaux du TAV Lyon-Turin, et il a failli aller en prison. Vous voyez, la moindre action critique sociale est aujourd'hui que c'est instrumental, c'est voulu. Et c'est incroyable qu'en Italie, il n'y ait pas quelques rarissimes cas de gens qui dénoncent ça. C'est terrible. Voilà. Mais bon, j'aime plus. Autant j'aimais l'Italie dans les 70, autant aujourd'hui, je trouve que c'est terrible ce qui se passe, puisqu'il y a, il y a une censure, une autocensure de l'autre social qui est terrible. Et les mêmes camarades des centres sociaux c'est conforme, malheureusement, à ces dictats donnés par l'État. Et évidemment, il faut se protéger, et c'est difficile. Les années 90 ont été très difficiles pour les camarades en Italie. J'espère que ça va changer comme ailleurs.
È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne 15 anni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli ed ho visto le auto blu
lindo, rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani.
J'ai connu les camarades de Tienne à Chupano, chez Ernesto, un soir de printemps 76. Je connaissais Ernesto depuis quelque temps déjà. Nous nous étions croisés plusieurs fois pendant les luttes des lycéens pour la gratuité des transports scolaires, durant les occupations sauvages des gares routières, aux portes de l'Anne Rossi, à distribuer des tracts, et dans les rangs des plus radicaux et enragés de manifs ouvrières à Schio ou à Bassano. Deux chemins semblables, mais jusqu'alors suivis en parallèle, car ils faisaient partie de Lotta Continua, et moi de Potere Operaio. Lorsque je suis allé chez lui pour le rencontrer, les positions avaient évolué. Ernesto était sorti de Elsie et moi du groupe Vicenta, issu de PO. Le but de cette rencontre était clair. J'espérais qu'on pourrait se regrouper pour former les Collettivi Politici di Vicenza dell'Autonomia Operaia. Chez Ernesto, je me suis senti immédiatement à l'aise. J'y allais pour une réunion publique et j'avais l'habitude de débattre assis autour d'une table, habituellement dans une pièce froide et dépouillée avec deux affiches collées au mur. Là, en revanche, je me trouvais dans une pièce chaude avec canapé, coussin, une belle bibliothèque de littérature alternative et de bandes dessinées, et de bonne musique de fond. La réunion s'était prolongée jusque tard dans la nuit. On discutait d'usines, d'écoles et de tant autres choses, en roulant des pétards et en écoutant les Doors et les Pink Floyd. Cette ambiance me changeait des réunions souvent ennuyeuses, au cours desquelles il fallait aboutir à une position commune ferme et définitive. Là, on discutait. On pouvait ne pas être d'accord, on pratiquait l'ironie et de temps en temps, on sortait des conneries en riant. Chacun disait son mot, sans hiérarchie ni préséance. Personne ne songeait à faire le leader, conscient que n'importe quelle attitude allant dans ce sens aurait provoqué des sarcasmes. Il y avait une dizaine de personnes présentes. Et à part Ernesto, tous étaient des ouvriers et prolétaires du coin, tous jeunes. Cela me changeait des vieux ouvriers communistes, à qui j'allais rendre visite dans des villages perdus, comme Monte di Magre, où, dans un petit salon en formica, trônait le Capital et deux ou trois autres livres marxistes. Après leur avoir demandé des informations sur les problèmes et sur les luttes à l'usine, et avoir échangé quelques opinions politiques abstraites, il était clair que nos relations ne pourraient aller plus loin. C'étaient de vieux ouvriers communistes qui en avaient vu et fait beaucoup, qui désormais étaient fatigués et pessimistes, et qui nous regardaient avec une certaine condescendance. En revanche, avec Lorenzo, Renato, Angelo, Pino et les autres, je sentais que nous partagions une sensibilité commune, des rages et des révoltes, des rêves et des goûts musicaux. Depuis sa création à Schio, en 1970, par Enrico Marchesini, Attilio Maserio, Barto Zavagna, Tony Carollo et d'autres, Lotta Continua avait attiré dans ses rangs des ouvriers radicaux en rupture avec les partis et les syndicats en place, et dans certaines usines importantes, comme La Verda à Bragenz ou Istibul à Zané, les délégués d'entreprise et les militants de LC ne faisaient qu'un. Mais pour ces jeunes ouvriers qui allaient à l'usine contraints et forcés, les revendications sur les horaires de travail ou les augmentations de salaire représentaient encore trop peu. Ils en voulaient plus, beaucoup plus, et même LC finissait par leur paraître trop timoré. Ernesto était le fils d'un industriel qui avait fait fortune en fabriquant des conserves de choucroute et de petits oignons à l'huile. Comme moi, il avait été fasciné, tout jeune, par le mouvement ouvrier et révolutionnaire. Il avait fait partie des fondateurs du collectif politique des étudiants de Schio et de Tienne. Il avait milité dans Lotta Continua dès la première année de lycée. Ernesto n'était ni le premier ni le seul enfant de la bourgeoisie aisée qui, en ces années-là, avait choisi d'être avec les prolétaires. Il y eut des cas célèbres d'aristocrates romains qui entrèrent dans Servire il Popolo ou dans un autre groupe révolutionnaire à la morale communiste très rigoriste et qui donnèrent leurs biens à leur nouvelle famille politique, dilapidant les fortunes familiales. Sans arriver à ces extrêmes, Ernesto se montrait d'une grande hospitalité et générosité, faisait profiter les copains d'un frigo bien rempli. Je ne me souviens pas si ce soir-là, nous avions conclu quelque chose, mais en tout cas, cela m'avait donné l'envie de continuer à fréquenter ses camarades, car je les sentais proches de moi, semblables, chargés d'énergie positive. C'est à partir de cette rencontre, de cette soirée-là, que le mouvement de l'autonomie ouvrière prendrait son envol dans la province de Vicenza. En Italie, on était en train de vivre un moment de transition entre le cycle de lutte de 68-69 et ce qui s'ensuivit. Le mouvement ouvrier unitaire, né à la fin des années 60, avait été loin et avait arraché au patronat et à l'État des conquêtes inimaginables quelques années auparavant. Les droits syndicaux, assemblées, délégués, conseils d'usine, étaient acquis et intouchables. La semaine de 40 heures s'était installée, les samedis et dimanches avaient été déclarés fériés et les augmentations salariales significatives rendaient la vie des familles ouvrières moins difficile. Mais une fois lancé, le mouvement semblait ne plus vouloir s'arrêter. Après les luttes sur le renouvellement de la convention collective des métallurgistes en 72, l'agitation dans les usines avait continué. Les grèves et les revendications se radicalisaient. L'occupation de l'usine Fiat de Mirafiori, aux portes de Turin, au mois de mars 73, fut l'épisode le plus emblématique de la période. Mais la confrontation était diffuse, comme le montrait la longue grève chez l'Anne Rossi, la même année. La réponse syndicale à la crise pétrolière avait été opportune et clairvoyante. Contre l'augmentation des prix, le mouvement ouvrier avait imposé l'instauration de ce qu'on appela la scala mobile, la remontée mécanique. Dans un premier temps appliquée au salaire dans l'industrie, puis étendue en 1975 à tous les secteurs d'activité. Ce fut une conquête historique, unique, que les travailleurs italiens réussirent à emporter. Établir un mécanisme qui faisait automatiquement augmenter les salaires si les prix augmentaient était une vérité de la palice, permettant d'empêcher que l'inflation ne rognât les augmentations de salaires conquises de dures luttes. Cette conquête représenta probablement le pic de pouvoir que les mouvements ouvriers avaient pris pendant ces années-là. Une mesure que le patronat et les banques furent obligés d'accepter, s'inclinant devant la force du mouvement ouvrier, mais qu'ils ne digérèrent jamais. Au cours des années suivantes, la scala mobile était devenue la bête noire du patronat, qui la rendait responsable du déclin industriel du pays et d'autres catastrophes. En réalité, elle signifiait seulement moins de profits dans leur poche. Quand le climat social changea, les gouvernements de centre-gauche se firent les exécutants zélés des desiderata patronaux de revanche. Et à partir de 1984, par des réformes successives, on arriva à l'abolition définitive de la scala mobile et de 1992. Elle fut seulement concernée par certaines catégories de travailleurs, comme les députés et les journalistes. Au milieu des années 70, les luttes ouvrières et syndicales paraissaient avoir touché les limites du possible, tout au moins dans le cadre de l'usine. L'organisation ouvrière par le bas, à travers des comités, des assemblées ou des collectifs, de Magneti Marelli de Milan au Petrochimico de Porto Marghera, d'Alfa Romeo à Fiat, gérait le pouvoir ouvrier acquis au cours de la dernière décennie de lutte. Les ouvriers licenciés pour motifs politiques, accusés par l'entreprise de fomenter des désordres, étaient portés à l'intérieur de l'usine par leurs camarades, malgré l'interdiction patronale et l'opposition des gardes aux portes. Et finalement, le patron était obligé de reprendre dans l'entreprise ces subversifs qui lui gâchaient le sommeil. Si la plupart des ouvriers se sentaient probablement assez satisfaits des conquêtes obtenues, les ouvriers politisés ressentaient une espèce de frustration, une impasse, et voulaient aller plus loin, beaucoup plus loin. Ainsi, en 75-76, devant les restructurations industrielles, les licenciements et le début du chômage de masse, l'autonomie ouvrière proposait des réformes radicales pour l'époque. Derrière le slogan « Travaillez tous, travaillez moins », les assemblées autonomes et les comités ouvriers revendiquaient les 35 heures payées 40, avec l'objectif du salaire garanti. On posait la nécessité de garantir la survie des pauvres et des chômeurs, et avec celui du salaire domestique, on voulait faire reconnaître le travail des femmes. Des positions et des revendications jugées extrémistes ou utopiques à l'époque, et qui furent pourtant adoptées et en partie appliquées deux décennies plus tard par les social-démocraties de l'Europe du Nord. De l'usine, l'analyse, le discours et l'action se déplaçaient de plus en plus vers la société tout entière, identifiant dans les jeunes prolétaires la base sociale d'un possible mouvement révolutionnaire. En parallèle, le débat sur les moyens et les formes de lutte se déplaçait de l'action publique de masse vers une action de groupe restreint, organisée. Ainsi, de 76 à 76, d'abord dans la ville de Vicence et dans le triangle Tienne-Schio-Ciupano, puis dans la zone de Montecchio, Maggiore et Arzignano, et enfin à Bassano del Grappa, se formèrent des agrégations de camarades qui évoluaient sur deux plans. D'une part, une activité d'agitation sociale dans les usines, les écoles et les quartiers populaires, associée à une activité de contre-information et de propagande, à travers des journaux, des radios et les traditionnels tracts, graffitis et affiches. Et d'autre part, l'organisation de noyaux armés semi-clandestins qui effectuaient des actions illégales liées aux actions légales. Les deux types d'actions, indissociables à nos yeux, devaient être menées en même temps. Nous n'étions pas les seuls à le faire. Il existait un climat général qui allait dans une direction, une vague qui nous portait. Nous faisions plus ou moins ce que les milliers d'autres personnes étaient en train de faire au même moment aux quatre coins de l'Italie. Nous nous sommes liés tout de suite avec les camarades de Padoue, et à travers eux à ceux de Milan, Turin, Bologne, Rome, Naples, à savoir, grosso modo, à ce qui serait dénommé la mouvance de l'autonomie ouvrière. Celle-ci, d'ailleurs, resterait jusqu'à la fin une mouvance, car même si certains poussaient vers une organisation centralisée, il n'y aurait jamais d'organisation nationale de l'autonomie, mais un réseau de groupes. Au mieux, nous sommes arrivés à des formes de coordination, d'initiatives et de campagnes politiques, à des échanges et des aides matérielles, à différentes sortes de solidarité, parce que chacun, justement, voulait être autonome.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo te. Ma una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi.
Année de rêve et de plomb. Des grèves à la lutte armée en Italie, 68-80, aux éditions Agone, dans la collection Mémoire sociale. Voilà, Vacarme en Réunion touche à sa fin. Voilà, il y aura d'autres présentations aux tanneries, puisque les mercredis des tanneries reprennent, et que du coup, à partir de maintenant, tous les mercredis, il y aura une discussion, une présentation de livres, un repas et un film. Et entre autres, il va y avoir d'autres discussions prochaines qui parleront des années 70 en Italie. La semaine prochaine, en tout cas, c'est la présentation de la revue Z, donc du dernier numéro de la revue Z, qui s'appelle Bonne femme, mauvais genre, et qui parle de féminisme. On vous dit à bientôt et on vous quitte.
Dopo quella volta lei l'ho persa di vista. Disperata lo aspetta ogni sera il sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio.